10h37 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. C'est 4 degrés à Québec. On attend un petit 5 aujourd'hui avec 40% de possibilité d'averse de pluie ou de neige. Ce soir et cette nuit, moins 5. Elle est là, généralement nuageux. Demain, vendredi, on nous parle d'un moins 1 avec faible neige intermittente. Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est 0 degré avec neige ou pluie. Samedi, 8 degrés avec de la pluie intermittente. Ça, c'est poche un peu. Après ça, ça revient à moins 6 au courant de la nuit. Là, on tombe vraiment là-dedans. Là. Les moins... On a été gâtés à la date. Là. On approche de la mi-novembre. C'est comme normal qu'à un moment donné, on puisse pas rester l'été tout le temps. Mais c'est vers là qu'on s'en va. Et là, on s'en va rejoindre l'ami Kevin Dubé, qui est en studio, journaliste sportif au Journal de Québec. Le journal qui a appris que la Ligue canadienne de hockey, la CHL, évaluait la possibilité de greffer la USHL à ses entités. La CHL, présentement, c'est l'HGMQ, la OHL en Ontario et la WHL dans l'Ouest. Kev Dubé, première des choses, bonjour.
Salut Max.
Ça sort d'où ça, à la base, que là, la Ligue de hockey canadienne, qui est déjà bien implantée au Canada, j'ai nommé les trois ligues, là. À la fin de l'année, il y a le tournoi de la Coupe Memorial entre les champions des trois ligues puis l'équipe hôtesse. Là, pourquoi on veut... Puis c'est pas une surprise qu'on veuille jouer aux États-Unis, parce que dans ces tiers, il y a déjà quelques équipes aux États-Unis. On sait que la LHGMQ regardait pour ramener des équipes américaines au sein de la Q. Mais là, de vouloir greffer la USHL, ça, c'est nouveau.
Oui, c'est nouveau. Puis ça vient avec... Tu sais, en fait, l'élément déclencheur, c'est il y a un an, quand la NCAA, qui est le circuit universitaire américain, ont changé leur règlement, permettant maintenant aux joueurs qui ont joué dans la LCH d'aller jouer dans la NCAA. Fait que là, il y a eu un changement du paysage hockey en Amérique du Nord, total. Il y a des joueurs qui ont, tu sais, puis Gavin McKenna, pour les gens qui le connaissent, c'est le prochain premier choix total du repêchage, a décidé de quitter les Tigers de Medicine Hat dans l'Ouest pour aller jouer dans la NCAA, qui peuvent offrir de l'argent maintenant aux joueurs. Il a quitté pour une somme d'à peu près 700 000 $. Donc là, tout le monde est en train d'essayer de revoir le paysage. Puis Bill Daly, le commissaire adjoint de la Ligue nationale, l'a dit au début de la semaine, c'est un nouvel ordre mondial dans le hockey junior. Et là, tout le monde essaie de voir sa place un peu, où est-ce qu'on se situe. Et il y a eu une grosse rencontre au début de la semaine dernière dans les bureaux de la Ligue nationale à laquelle ont participé les trois ligues, le président de la ligue canadienne, les commissaires des trois circuits de la Ligue canadienne. USA Hockey était là, qui est le Hockey Canada des États-Unis. Hockey Canada était là et la USHL. Le but de ça, c'était de parler de, bon, comment est-ce que on se réorganise pour s'assurer que personne se cannibaler, j'aurais envie de dire, qu'on arrête de se voler nos joueurs puis qu'on puisse le plus possible protéger notre produit. Puis l'une des idées, ben l'idée principale qui est sortie de cette rencontre-là, puis c'est pas une idée nouvelle, ça faisait quelque temps déjà qu'on en discutait, c'est d'ajouter la USHL, comme tu l'as dit, à l'entité de la Ligue canadienne. Parce que la USHL, présentement, tu sais, on a beaucoup parlé des joueurs qui ont quitté, puis je parlais de McKenna, il y en a d'autres qui ont quitté la Ligue canadienne, puis on a l'impression que c'est... Au début, on parlait d'une hécatombe là, de joueurs qui allaient quitter. Finalement, c'est pas nécessairement ça qui s'est passé. La Ligue canadienne était, j'ai envie de dire, relativement, entre guillemets, épargnée.
C'est qu'il y en a eu quelques-uns très
bons. C'est de gros noms qui ont quitté. Puis je pense que ça, c'est la nouvelle réalité du hockey junior. Mais il y a aussi des joueurs américains qui ont décidé de venir. Des gars qui ont quitté le programme national de développement américain, qui sont venus jouer dans la Ligue canadienne.
Parce qu'avant, ils n'auraient pas pu venir jouer dans CHL.
Exact.
Puis aller universitaire américain après. C'était interdit.
Exactement. Puis des joueurs qui, normalement, par exemple, des joueurs comme Alexis Joseph, qui est le premier choix total du dernier repêchage de la LHGMQ, qui veut aller jouer dans la NCAA, mais avant les nouvelles règles, il n'aurait pas pu jouer dans la Ligue canadienne ou dans la LHGMQ. Là, maintenant, il peut le faire. Fait qu'il peut venir à 16, 17, peut-être 18 avant de quitter pour la NCAA. Donc, ces joueurs-là sont venus, ça aide le produit de la LHGMQ. Mais la USHL, c'est la grande perdante parce que la USHL, son but premier, c'était de développer des joueurs pour la NCAA.
Elle servait juste à ça.
Elle servait juste à ça. C'est une ligue où les jeunes Américains passaient, transigeaient avant de s'en aller... transitait plutôt avant de s'en aller vers la NCAA. Maintenant, ben là que... Puis c'est un circuit qu'il faut quand même... C'est un point important, là. C'est un circuit qui est inférieur à ceux de la Ligue canadienne, ouais, en termes de calibre de jeu. Fait que là, maintenant, ben, les joueurs américains, ils se disent « Pourquoi j'irais jouer dans USHL quand je peux aller jouer dans la Ligue canadienne? »
C'est moins fort.
C'est plus fort, j'ai plus de visibilité. Donc, les joueurs américains ont décidé de venir ici. Puis là, ben, la USHL se retrouve sans trop d'identité. Et l'idée qu'on a... qu'on pense qui serait la meilleure pour la survie de la USHL puis pour le bien-être de tout le monde en Amérique du Nord, ben ce serait que la USHL joigne les trois circuits canadiens.
Puis quand on dit joindre, est-ce que c'est que les équipes de la USHL, ceux proches de l'Ouest joindraient l'Ouest, ceux proches du Québec joindraient le Québec, ou il y aurait maintenant vraiment quatre ligues dans la CHL, la LHGMQ, la OHL, la WHL, et on ajouterait à ça une quatrième ligue, la USHL?
Ben, c'est ce qui est discuté présentement. Ce serait d'ajouter la USHL qui deviendrait comme une quatrième ligue à la Ligue canadienne, qui serait probablement plus la Ligue canadienne si on ajoutait les États-Unis.
En effet.
Le problème aurait changé de nom. On a parlé de la Ligue nationale de hockey junior, mais ça, on est encore très embryonnaire. Donc, c'est ça. Puis la USHL compte 16 équipes, donc ce serait un circuit à part entière dans la Ligue canadienne, qui participerait à la Coupe Memorial à la fin de l'année. Donc, il y aurait les champions de la USHL qui participeraient aussi à la Coupe Memorial. Et qui deviendrait à part égal un membre de la Ligue canadienne avec les trois autres ligues.
Mais pourquoi, ce que j'ai peut-être de la misère à capter, c'est pourquoi le calibre deviendrait meilleur en USHL si elle faisait partie de la CHL? Ce ne seraient plus les mêmes joueurs?
Non, ce seraient les mêmes joueurs. Puis ça, regarde, ça c'est un autre débat. Puis tu sais, il reste beaucoup d'eau à couler sous les ponts avant que ça se fasse. Le projet est là, est concret. Puis la USHL, je pense, c'est que c'est probablement sa seule option de survie.
OK.
Donc, puis à ça, ben, tu sais, après ça, il faudrait revoir. Bon, parce que présentement, chaque ligue canadienne a un territoire américain qui lui est attitré. Donc, il peut piger dans ce territoire-là pour attirer des joueurs.
Ouais.
Là, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on dirait, bon, la USHL possède tous les États-Unis? Mais les trois ligues canadiennes gardent quand même un certain territoire puis peuvent attirer certains joueurs qui voudraient venir ici jouer au Canada pour XY raison. Par exemple, ben, je sais pas moi, un joueur américain de la région de Boston qui pense que les Remparts de Québec, c'est la meilleure option pour lui, ben, pourrait venir ici. Ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'ils soient discutées. Puis il y a plein d'autres choses. T'sais, la USHL, c'est pas une ligue qui est gérée de la même façon que les trois ligues canadiennes. Probablement qu'il faudrait qu'ils se mettent à niveau en termes de politique antidopage. Je sais que la Ligue canadienne a plusieurs formations qui donnent à ses joueurs des formations sur ce qui est d'actualité présentement, c'est les paris sportifs. Il y a des formations qui sont données de sensibilisation aux joueurs. T'sais, il y a plein de choses en termes de budget d'opération. C'est pas toutes les équipes. On parle beaucoup du Steel de Chicago dans la USHL, qui est comme le gros programme, qui est un peu les Knights de London de la USHL. Mais c'est pas tout ça. Fait qu'il faudrait qu'ils se mettent à niveau là. Puis après ça, il faut quand même aussi démontrer qu'ils seraient capables d'attirer des gens. La Ligue canadienne ne prendra pas une ligue qui va mourir parce qu'il n'y a personne qui va voir son produit.
Ça reste une business, là.
Ça reste une business, absolument. Fait qu'il faudra que les propriétaires, première des choses, acceptent de joindre les propriétaires de la USHL, acceptent le projet. Puis après ça, qui démontrent qu'ils sont capables d'atteindre les standards de la Ligue canadienne. Puis même en termes d'installation, puis de gym, puis de tout ça, tu sais, il y a beaucoup de choses à faire. Ça serait des investissements assez importants pour les équipes de la USHL. Mais rendu là, c'est est-ce qu'on investit ou on meurt? C'est un peu ça, le dilemme.
Je veux qu'on va rester un peu dans le sujet Canada-États-Unis. Je veux qu'on parle un peu du cas Nathan Lecomte,
ouais,
qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines. Le gars était le meilleur pointeur des Saguenayens de Chicoutimi, puis a annoncé qu'il quittait les Saguenayens de Chicoutimi. Sur Twitter, c'est son agent qui a partagé qu'il s'en allait rejoindre justement une équipe de la USHL.
Mm-hmm.
Puis là, finalement, coup de théâtre, il revient à Chicoutimi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non seulement il revient à Chicoutimi, mais il dit après ça dans les médias qu'il n'a jamais eu l'intention d'aller aux États-Unis.
Alors que c'est son propre agent qui a dit qu'il s'en allait là.
Et son père, qui travaille. Son agent, c'est Alan Walsh, pour ceux qui le connaissent. C'est l'agent de Jonathan Huberdeau, de Marc-André Fleury. C'est un agent qui est très coloré puis qui n'a pas peur d'utiliser les médias sociaux pour faire avancer ses propres intérêts. Il l'a fait à quelques reprises avec Marc-André Fleury puis Huberdeau notamment. Puis le père de Nathan Lecomte, c'est Éric Lecomte, travaille pour Alan Walsh en tant que conseiller pour la firme Octagon. Puis son père, quand c'est arrivé, j'avais contacté son père, puis il m'avait dit que c'était une décision personnelle de Nathan, qui voulait vivre l'expérience américaine, que c'était clair
que c'était ça, là.
Ben écoute, je veux dire, à un moment donné, 1+1, ça fait pas 3, là, tu sais. Mais là, après ça, il revient, il y a un point de presse, puis là, Nathan Lecomte revient, puis lui, il dit que au départ, il a quitté pour des raisons personnelles, des raisons de santé mentale, il avait besoin de prendre une pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, c'est difficile à savoir. Il y a probablement un mélange de tout ça. Ce qu'on me dit, c'est que au départ, le jeune a vraiment quitté pour des raisons personnelles. Ensuite, est-ce que son agent a utilisé les médias sociaux puis la menace de la USHL pour détourner l'attention? Puis ça, c'est une des choses que j'ai entendues.
Est-ce qu'Alan Walsh a fait tout le contraire, finalement?
Est-ce qu'il a utilisé les médias sociaux pour détourner l'attention de la santé mentale de son joueur? Ça a juste créé une bombe encore plus. Puis je ne suis pas sûr que c'est la meilleure chose pour la santé mentale d'un jeune de se faire traiter de mauvais joueur d'équipe puis de lâcheur puis tout ça, tu sais. Écoute, c'est extrêmement difficile à savoir. Il y a des gens qui me disent que oui, il a vraiment eu l'intention d'aller dans USHL, puis finalement, il s'est peut-être rendu compte que c'était pas la meilleure. Parce que là, lui, c'est un gars qui veut être repêché dans la Ligue nationale, qui veut jouer. Il n'a pas été repêché l'an dernier, ça l'a un peu dérangé. Il veut jouer dans la Ligue nationale, ou en tout cas, il veut être repêché. Puis là, ben les recruteurs regardaient ça, puis ils se disaient, OK, il y a 10 games de jouer, c'est le meilleur pointeur de l'équipe. Les Saguenay, c'est pas une équipe de bas de classement. Ils peuvent gagner cette année.
Oui.
Lui, il s'en va. Il va faire quoi avec nous autres quand ça n'entendra plus de jouer?
Puis il s'en va dans un calibre inférieur on le dit. Là, la USHL est en bas de la LHMQ en termes de calibre.
Exactement. Fait que c'est plate parce que ça, c'est mon opinion très personnelle. Je pense que le jeune, en tant que tel, a été mal conseillé. Et il s'est retrouvé dans une situation impossible, une espèce de conflit de loyauté entre son équipe junior et les conseils de ses conseillers. Puis moi, ce que j'ai pas aimé, pour être super honnête, c'est de le voir arriver à la conférence de presse seul, avec entouré de Yannick Jean et de Richard Letourneau des Saguenay, mais personne de son entourage qui était là, alors que c'est eux qui l'ont lancé en dessous de l'autobus.
Un agent ou un membre de l'agence aurait dû être là.
Ben, au moins pour faire le point, tu sais, puis parce que c'est eux qui l'ont lancé en dessous de l'autobus, puis qui l'ont mis dans le pétrin. Il n'y a personne qui était là pour le backer. J'ai trouvé ça un peu plate. Mais la bonne nouvelle, c'est que, ça reste que Nathan Lecomte, c'est un excellent joueur qui revient dans la ligue de hockey junior maritime Québec. Ça peut pas être une mauvaise nouvelle. Il semble avoir bien joué. Évidemment, j'ai pas regardé les matchs, mais il a fait quelques points en fin de semaine passée. Donc, espérons pour lui et pour ses coéquipiers aussi, parce qu'il a été obligé de s'expliquer à ses coéquipiers. Ça devait pas être facile. Hein? Puis je sais de sources sûres qu'ils l'ont challengé. Là. Dans le vestiaire, ça a pas été un free pass pour lui. Là. Il a fallu qu'il réponde aux questions pour vrai. Puis il y avait du scepticisme malgré ses réponses. Un peu comme nous tous, d'ailleurs, parce que c'est dur à comprendre. Mais bon, au moins, c'est réglé.
Kev, tant qu'à t'avoir, on va parler du Canadien. T'es excitant ce qu'on vit cette année?
Ben oui, je ne suis pas un partisan du Canadien, mais j'aime voir le Canadien gagner parce que...
T'es pas un partisan du Canadien?
Non, je suis pas un partisan du Canadien, puis je suis pas un partisan d'aucune équipe. Honnêtement, je suis un partisan de hockey. J'aime quand le Canadien gagne parce que... C'est parce que ça ajoute de l'ambiance, de l'atmosphère, puis un peu de positif dans la province. Là, mais c'est le fun d'avoir. Puis moi, j'ai jamais été aussi optimiste envers cette organisation-là depuis que je suis hockey. Il y a des les Lane Hudson, Ivan Demidov, Cole Caulfield, Nick Suzuki, c'est le fun d'avoir. Puis je pense que les gens peuvent être, pour une fois, là, il y a beaucoup d'optimisme. On parle de hype, là. Il y en a à toutes les années, il y a trop de hype, je trouvais, sur tous les joueurs. Là. Chaque joueur était supposé être un futur joueur de premier trio, mais là, il y en a beaucoup des vrais futurs vedettes, je pense, puis c'est positif.
Mais quand même, Kevin Dubé du Journal de Québec, t'as écrit un texte cette semaine pour briser le party en nous parlant de la cadence actuelle du CH qui va être difficile à maintenir, puis ça, on s'en doute par simple logique. Là, je veux dire, tu regardes le début de saison, puis c'est pas vrai qu'on va finir avec au-dessus de 60 victoires, là, alors que mathématiquement, c'est ça qui arriverait cette année. Mais tu as utilisé une façon, justement, je parle de mathématiques, très mathématiques avec Sports Logic, c'est ça, hein, de stats avancées.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, exact. C'est nos partenaires au journal de Sports Logic. Je leur ai demandé, en fait, pouvez-vous me dire si la production, si le rythme que le Canadien a en ce moment est soutenable à long terme? Puis ce qu'ils ont utilisé comme outil statistique pour le faire, c'est qu'ils ont pris le différentiel. Donc le différentiel, c'est le nombre de buts que tu marques moins le nombre de buts contre. Ça te donne un chiffre, plus ou moins. Puis après ça, le nombre de buts... après ça, ils ont fait la même chose, mais avec le nombre de buts attendus. Ça, le nombre de buts attendus, c'est une statistique qui comptabilise les chances de marquer que tu as, simplement, là, les chances de marquer que tu as en prenant les tirs d'où proviennent les lancers, puis le nombre de buts que tu aurais dû marquer selon les chances de marquer que tu as, puis à l'inverse, ceux que tu aurais dû donner, considérant le nombre de chances que tu as donné. Là, c'est pas exactement ça, mais c'est grossièrement, c'est ça. Et le Canadien a un différentiel beaucoup, beaucoup meilleur en temps en réel que ce que les chiffres démontrent. Ce qui veut dire que la production actuelle du Canadien n'est pas soutenable à long terme. On s'en doutait. Ce que ça veut dire, c'est que je pense, en fait pas je pense, je sais que le Canadien produit énormément d'avantages numériques présentement.
Ça ne peut pas rester.
C'est pas une cadence qui peut être soutenue. La production du premier trio est presque égale en avantage numérique qu'à 5 contre 5, ce qui, ça non plus, n'est pas soutenable à long terme. T'sais, ça veut-tu dire que le Canadien va finir va connaître une séquence de 12 défaites puis va rater les séries? C'est pas ça. C'est juste qu'en ce moment, le Canadien se dirige vers une saison de 59-60 victoires.
Et Jakub Dobeš s'enlignerait pour pas perdre une game cette année.
Ouais, c'est ça.
Et autant je le trouve très, très bon, autant je pense pas que ce soit possible.
T'sais, la régression va inévitablement arriver. Puis je veux dire, il y a des choses qui se calculent pas en statistiques, là. Puis la résilience en est une. Puis l'équipe est extrêmement résiliente depuis le début de l'année. Tu sais, le nombre de matchs, j'ai pas les chiffres, mais le nombre de matchs qui sont revenus après avoir bousillé une avance.
Au point où lundi, mardi, en tout cas, la game contre les Flyers, à 0-3, dans tous mes groupes de discussion de hockey dans lesquels je jase, en majorité, le monde se disait qu'on allait remonter.
Ah ouais,
tu sais, puis il y avait même pas d'inquiétude. C'était, c'est en première période, c'est contre les Flyers. Puis c'est arrivé quand même.
Ben c'est ça. C'est juste que là, le Canadien joue avec le feu beaucoup. Il faut juste pas qu'il attende que le toit du Centre Bell pogne en feu. Il faut qu'à un moment donné, faut que tu réussisses à conserver tes avances, oui, mais aussi à avoir des bons débuts de match, puis à pas produire seulement un avantage numérique. Mais le positif, comme je le disais, c'est qu'ils ont les éléments dans l'alignement pour le faire. Là. C'est une équipe qui est capable de marquer à 5 contre 5. Là. Ils ont tellement de talent qu'ils sont capables de le faire. Maintenant, il faut qu'ils le fassent puis sur une base régulière. Puis en même temps, faut pas se leurrer non plus. C'est une équipe qui est encore très jeune et qui n'a pas beaucoup d'expérience. T'sais, l'année passée, ils ont eu une ronde de série. Il y a plein de gars là-dedans qui c'était leur première ronde en carrière. Fait que ça va venir. Là. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que le Canadien finisse premier dans l'Est. Quand il va avoir 82 matchs de... 82 ou 84 cette année?
C'est 82 cette année, c'est à partir
84,
de l'an prochain.
Quand il va avoir 82 matchs de jouer.
Avant de te laisser aller, Kev Dubé, pas le choix de te demander ton 2 centimes sur la controverse de gardien de but à Montréal. Qu'est-ce qui va se passer avec ça?
Moi, j'ai trouvé qu'on est... Je pense pas qu'il y a eu de controverse. Là. Il y avait un débat, puis je pense que c'est sain d'avoir un débat. Est-ce qu'on y va avec Montembeau ou est-ce qu'on y va avec Dobeš? Dobeš n'a rien fait pour qu'on l'enlève du filet. Mais moi, dans ma tête, à moi, le numéro un jusqu'à preuve du contraire, ça demeure Samuel Montembeau.
Mais on a eu des preuves du contraire.
Ben oui, t'as raison, mais après 12 matchs, pour moi, c'est pas un échantillon assez. T'sais, comme je pense qu'on s'en est déjà parlé, si après 40 matchs de saison, Dobeš continue de dominer comme ça, puis que Montembeau n'est pas capable de redresser la barque... Là, on pourrait avoir un vrai débat puis une vraie controverse, entre guillemets. Pour l'instant, pour moi, il n'y en a pas. Il y en a un qui connaît un meilleur début de saison que l'autre. Tant mieux. Mais je pense qu'à long terme, si tu veux gagner, c'est avec Samuel Montembeau que tu vas le faire. C'est le gars qui t'a sorti de la boîte l'année passée aussi. Là. Puis c'est un gars qui était avec Team Canada.
Mais oui, puis non, Dobeš, quand il est arrivé l'année passée, lui aussi, il t'a sorti de la merde. Sans Dobeš, l'année passée, on faisait pas les séries non
mais
plus.
Mais combien de gardiens auxiliaires... t'as vu être bon comme gardien auxiliaire, puis quand il devenait gardien partant, puis qu'il avait la charge de travail d'un partant, c'était plus la même chose. Ben, là, je pense qu'en ce moment, c'est le meilleur des mondes. T'as ton gardien numéro un qui cherche, puis en même temps, puis de l'autre côté, t'as ton auxiliaire qui connaît peut-être ses meilleurs moments de la saison. Là. Probablement, ça va être dur à topper là, ce que Dobeš fait en ce moment.
Ça va être
maintenir
dur
cette
pour,
cadence-là.
Ça va être dur pour Montembeau d'être aussi mauvais aussi.
Il est 100% d'accord. Il n'a pas été bon du tout. Probablement le pire qu'il a été depuis qu'il a joué le Canadien de Montréal. Puis tu sais, il n'a pas eu un bon début. Puis tu sais, je veux dire, il a été bon contre les Flyers, mais c'était quand même pas à 100% convaincant non plus. On a l'impression que des fois, il se battait quand même avec la rondelle.
Ben, puis on dit qu'il a été bon. Il a été bon après avoir accordé 3 buts sur 5 tirs en début de match. Là.
Ça, après ça, le débat, c'est est-ce qu'il était vraiment coupable des 3... Est-ce que c'est de sa faute,
pas.
Les 3 buts? Bon,
non.
C'est ça. T'sais, je pense qu'il y a un peu de malchance là-dedans, mais ça reste quand même la pire façon de commencer un match quand t'es un gardien de but qui se cherche. Mais moi, je continue de croire que à long terme, ça va être Montembeau, le gardien numéro 1. Mais comme je te dis, on peut se reparler si tu veux. Yann, on peut se prendre un rendez-vous. On est le 6 novembre. On peut se parler le 6 janvier au retour des fêtes.
Okay.
Puis si la situation des gardiens est la même, ben là, je pourrais peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule. Je suis un peu orgueilleux, là, mais
Moi, je suis pas orgueilleux pantoute.
Non, ben oui, c'est ça.
Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Kev Dubé du Journal de Québec, merci beaucoup. Puis on se reparle le 6 janvier.
Yes, toujours un plaisir.
Salut. Au retour, Audrey Pinchot s'amène pour l'Open Mic. Le point